Bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé ce message tout simplement « La grâce de Dieu ». Alors, je n'ai pas la prétention, bien sûr, de vous donner un exposé complet sur quelque chose qui est infini. La grâce de Dieu, elle est résumée dans les deux textes que nous avons lus, et nous allons y revenir. Mais j'aimerais tout d'abord dire que la grâce de Dieu, elle n'est pas simplement dans le Nouveau Testament. La grâce de Dieu, c'est la nature même de Dieu. Et cette nature, elle se manifeste aussi dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu, elle est présente dès le départ, lorsque Dieu donne à Adam et Ève tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait. Il leur donne un jardin qu'ils peuvent cultiver, et dans lequel se trouve tout ce qui est nécessaire à leur vie. Ils ont en plus la présence de Dieu, qui est le summum de la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs fois, même de nombreuses fois, Dieu se manifester et manifester sa grâce. Sa grâce, nous venons de le dire, c'est sa nature même. Dans la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses, et nous allons le voir dans quelques instants. Il y a des mots qui expriment la grâce de Dieu. Nous allons lire quelques textes, mais auparavant, j'aimerais insister sur le fait que dans l'Ancien Testament déjà, alors que nous avons l'habitude de considérer, et à juste raison, que l'Ancien Testament nous parle de la loi. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, vivait sous une loi et sous le régime d'une loi. Paul dira plus tard que la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a conduit le peuple de Dieu jusqu'à Dieu pour que Dieu l'enseigne. Le pédagogue, dans la culture grecque, c'était au temps de Paul, le pédagogue était un esclave qui était chargé de prendre les enfants à la maison et de les conduire jusqu'à l'école pour y être enseigné. C'est le sens même littéral du mot pédagogue, conduire l'enfant. Et Paul dira plus tard, que dans la lettre aux Galates, que la loi a été donnée comme ce pédagogue, c'est-à-dire pour nous conduire là où nous allons apprendre. Et là où nous allons apprendre, bien sûr, c'est au pied de Dieu, au pied de Jésus. La grâce, nous la trouvons dans l'Ancien Testament, dans de nombreux textes. Je les cite simplement au passage, sans les lire individuellement. Lorsque, par exemple, malgré tout ce qu'ils avaient reçu au départ, Adam et Ève préfèrent prendre leur liberté et commettre le péché. Le péché qui est, dans leur cas particulier, le manque de foi dans ce que Dieu a dit. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf d'un arbre. Et j'allais dire, bien évidemment, bien naturellement, nous pouvons le dire aujourd'hui avec le recul du temps, bien naturellement, c'est cet arbre-là qui les a attirés plus que les autres. Vous savez qu'on voit ça dans la nature humaine, on voit ça chez les enfants, on voit ça chez les adultes aussi. Il suffit d'interdire quelque chose pour que ça attire plus les regards. Parce qu'on se demande toujours, mais pourquoi est-ce interdit? Pourquoi a-t-on le droit de faire toutes ces autres choses et pas celle-là? Alors on s'intéresse toujours à celle qui est interdite. Et Adam et Ève se sont intéressés à l'arbre interdit, en ont mangé. Mais même là, nous voyons que Dieu, alors qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus, qu'ils n'ont pas de vêtements, Dieu leur fournit le vêtement pour cacher leur honte. Plus tard, nous voyons la grâce de Dieu, par exemple, lorsque Abraham va prier pour les justes qui se trouvent éventuellement dans la ville de Sodome. Dieu va épargner, non pas la ville de Sodome, parce que son châtiment est inscrit, déjà est prévu, mais il va épargner les seuls quelques justes qui sont dans la ville. Puis nous le voyons au temps de Moïse, quand Moïse prie pour le peuple d'Israël qui a péché en tombant dans l'idolâtrie du veau d'or. Nous voyons comment Dieu va accorder sa grâce en exaucant Moïse, alors que Dieu avait dit « Je vais détruire mon peuple, je vais repartir avec toi, et à partir de toi, il y aura un nouveau peuple de Dieu. » Moïse prie pour que Dieu épargne son peuple. Et la grâce de Dieu se manifeste par le fait que Dieu accepte d'exaucer la prière de Moïse. On pourrait citer beaucoup d'autres textes dans l'Ancien Testament. Par exemple, ce texte de Jérémie où Dieu annonce, alors que du temps de Jérémie, Le peuple de Dieu vivait vraiment dans le péché et n'écoutait pas la voix de Dieu. Tout le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie, qui portent bien leur nom, montrent toute la détresse du prophète qui prêche le message de Dieu sans jamais être écouté. Eh bien, c'est pourtant dans le livre de Jérémie que Dieu dit qu'un jour je mettrai ma loi dans leur cœur. Un jour je ferai qu'ils obéiront naturellement à ma parole. Puis nous voyons d'autres exemples, et je termine par celui-ci, celui de David qui, quand il commet ce grave péché avec Bathsheba, adultère, puis crime pour cacher l'adultère, eh bien Dieu va l'épargner, Dieu va le laisser sur le trône malgré sa grave faute, et cela encore, nous voyons, c'est une grâce que Dieu lui fait. Cependant, il est clair que la grâce de Dieu, elle s'exprime beaucoup plus dans le Nouveau Testament. D'où le texte qui a été lu tout à l'heure. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et dans le verset 17, il est dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Nous pouvons dire que Jésus-Christ est la concrétisation, la matérialisation, l'incarnation de toute la grâce de Dieu. Parce que non seulement la loi avait été donnée par Moïse, non seulement la grâce est venue par Jésus, mais elle était en Jésus, incarnée. Jésus, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Jésus, c'est le résultat, c'est la conséquence de cet amour extraordinaire que Dieu a pour ses enfants, pour ses créatures même, avant même d'être ses enfants. Nous voyons dans ce texte, quand il est dit que nous avons reçu, au début du texte, il est dit, voilà, nous avons vu, celui qui est devenu la parole est devenu un homme, il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, nous avons vu sa gloire. La gloire, c'est le premier terme qui définit, qui décrit la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est revêtue de gloire parce qu'elle ne correspond à aucun acte qu'un homme pourrait commettre. Aucun être humain n'est capable d'accomplir des actions glorieuses comme celles de Dieu. La grâce de Dieu est difficile à comprendre pour l'être humain. Pourquoi y a-t-il tellement d'êtres humains qui ont du mal à croire à la grâce de Dieu? Parce qu'elle leur paraît trop éloignée d'eux. Elle leur paraît trop étrangère à leur propre nature. L'homme a par tendance naturelle, l'homme croit qu'il doit faire quelque chose pour plaire à Dieu. C'est inscrit, j'allais dire, dans nos gènes. Si je ne fais rien, je ne mérite rien. Dans la nature humaine, tout est fondé sur le mérite personnel et le fait que c'est par nos efforts que nous allons acquérir ce que Dieu veut nous donner. Mais Dieu fait tout le contraire. Dieu sait, et la loi nous a montré, pour cela que Paul a dit, la loi est comme un pédagogue, mais nous avons besoin de quelqu'un pour nous enseigner, pour nous changer. La loi n'était qu'un moyen pour que nous nous rendions compte que notre nature ne peut pas nous faire devenir juste devant Dieu. Par nature, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas le moyen de devenir agréable à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose d'autre, de la grâce de Dieu. Nous sommes un petit peu, avant de connaître Dieu, nous sommes un petit peu comme un condamné à mort qui a commis des actes criminels et qui ne peut pas échapper à la mort sauf si l'autorité compétente lui accorde sa grâce. Et là, il ne peut rien faire, il ne mérite rien. Et si l'autorité compétente, le roi, le président de la République, dans le temps, c'était comme cela en France, il n'y avait que le président de la République qui pouvait accorder la grâce aux condamnés à mort. Parfois, il l'accordait et parfois, il ne l'accordait pas. Ça dépendait des jours, ça dépendait des cas, peut-être, et des époques, et du climat politique. Mais avec Dieu, la grâce est acquise si nous croyons en lui et si nous sommes prêts à le recevoir dans notre cœur. La grâce est donc quelque chose de glorieux. Et nous avons lu un texte, après, dans Acte 11, verset 23, qui est en fait un extrait d'une histoire qui est raconté dans les Actes des Apôtres lors de la visite de Barnabas. Barnabas était un apôtre qui habitait à Jérusalem et qui a été envoyé dans l'église d'Antioche. C'est là que c'est à ce texte, à cette église que se réfère ce texte. Il a été envoyé là-bas parce que les apôtres, les chefs de l'église, avaient commencé à prêcher l'évangile à ceux qui n'étaient pas juifs. Or, jusque-là, on n'avait prêché l'évangile qu'à ceux qui étaient juifs. Les premiers croyants croyaient que la grâce de Dieu était réservée au peuple d'Israël. Jésus avait pourtant laissé entendre qu'elle serait pour tout le monde, puisqu'il avait déjà dit avant que Dieu a tellement aimé le monde, non pas seulement le peuple d'Israël, mais le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais puisse recevoir la vie éternelle. Et ce quiconque n'était pas quiconque parmi le peuple d'Israël, mais quiconque, Dieu a aimé le monde entier. Alors, les premiers chrétiens ne prêchaient qu'aux juifs, et puis il y a eu des chrétiens à Antioche, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Syrie, au nord d'Israël. Dans cette église, des chrétiens avaient commencé à prêcher l'évangile à des non-chrétiens. Alors ils ont décidé à Jérusalem d'envoyer Barnabas, l'un des apôtres, qui lui-même était d'origine étrangère, ce n'était pas un juif d'origine. Alors ils ont décidé de l'envoyer, il était juif d'origine, oui pardon, mais il ne parlait pas, sa langue maternelle n'était pas l'hébreu, et alors il habitait à Chypre, et alors Barnabas a été envoyé pour voir sur place ce qui se passait. Et quand il est arrivé, et qu'il a vu la grâce de Dieu, il s'en est réjoui et les a exhortés tous à rester d'un cœur ferme, attaché à Dieu, à Jésus. On pourrait s'interroger, mais qu'a-t-il vu exactement ? Le texte dit, il a vu la grâce de Dieu. Certaines traductions plus modernes, plus récentes de la Bible, disent, lorsqu'il a vu comment Dieu avait béni les croyants, c'est la Bible en français courant. Lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants. Ici, nous avons une autre idée. La grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu qu'il accomplit pour bénir les croyants. Alors peut-être vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? Dans le mot bénédiction, il y a le mot bien. Dieu a béni les croyants et quelque part il est dit, il a fait en sorte que beaucoup soient sauvés, que beaucoup soient guéris. Dans l'église d'Antioche, il y avait eu une véritable action de l'Esprit de Dieu. Les responsables de l'église d'Antioche, avaient prêché l'évangile à tous, juifs, grecs, étrangers. Et ils avaient vu se produire dans la vie des autres, qui n'étaient pas juifs, les mêmes choses que ce qui s'était passé chez eux. Par exemple, Dieu, ils avaient entendu l'évangile, et Dieu les avait transformés. Celui qui avant peut-être battait sa femme avait arrêté de la battre. Celui qui avant était alcoolique avait arrêté de boire. Celui qui avant trichait, volait, commettait des forfaits avait arrêté de faire tout cela et vivait maintenant une vie bien, une bonne vie. Et alors quand ils ont vu cela, peut-être même ceux qui étaient malades avant et qui n'étaient pas juifs, étaient guéris eux aussi quand l'évangile était prêché. Alors quand Barnabas a vu cela, il a reconnu en cela la grâce de Dieu. Il a reconnu les bénédictions que Dieu accordait à ceux qui croyaient en lui. Il a compris bien sûr que Dieu était prêt à bénir tous, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et il s'en est réjoui et nous a dit, il s'en est réjoui et il les a encouragés à demeurer résolument fidèles au Seigneur. Donc ce qu'il a vu, la grâce de Dieu, dit le texte, ce qu'il a vu, c'était ce que Dieu avait fait. Les guérisons, les conversions, les libérations, selon ce qui est dit dans Actes 10, 38, Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. La grâce de Dieu, nous pouvons le dire aussi, c'est la présence de Dieu. La grâce de Dieu se manifeste quand Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, il accomplit toutes ces choses. Donc la grâce de Dieu, c'est glorieux, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est glorieux, c'est quelque chose de glorieux vraiment, quelque chose qui resplendit, c'est quelque chose qui est complètement différent de la loi. La loi de Moïse disait « tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela, tu ne dois pas faire ceci ». Et il y avait toute une liste de choses qui étaient interdites et de choses qu'il fallait absolument faire. Mais cela ne transformait pas le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain continuait à avoir des désirs interdits, continuait à vouloir faire du mal, continuait à vouloir faire sa propre volonté, alors que par la grâce de Dieu, c'est une réalité nouvelle, c'est une vie nouvelle qui commence pour la personne qui croit à la gloire de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est donc glorieuse. La grâce de Dieu, elle est donc très riche. Elle comporte tout ce que Dieu accomplit en faveur de son peuple, sans même que son peuple mérite quoi que ce soit. La grâce de Dieu, ce sont toutes les actions de Dieu pour la conversion, pour la guérison, pour la libération, pour le changement de la vie. On voit aussi dans le livre des Actes qu'il y a un autre élément qui se distingue de beaucoup de choses, c'est la joie qui habite le cœur des êtres humains lorsque Dieu manifeste sa grâce. Par exemple, dans Actes chapitre 8, verset 8, il nous est dit que le diacre, Philippe, est allé dans la région de Samarie, au nord de Jérusalem, et que là, il a prêché l'évangile aux Samaritains, et il nous est dit qu'il y a eu beaucoup de miracles, de guérison, et beaucoup de transformations de vie, de conversion, comme nous le disons aujourd'hui. Et en conclusion du récit, l'évangéliste Luc dit « Il y eut une grande joie dans cette ville ». Chaque fois qu'il est parlé de la grâce de Dieu, nous voyons la joie s'exprimer. Si nous prenons par exemple le haut fonctionnaire éthiopien que Philippe a rencontré peu après avoir quitté Samarie, Dieu l'a envoyé sur le chemin qui descend vers le sud, vers le désert, et lui a dit d'aller à la rencontre d'un homme qui était un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, qui était venu à Jérusalem pour adorer Dieu, mais qui ne connaissait pas Jésus. Il l'a rencontré alors qu'il lisait le livre du prophète Ésaïe, sans comprendre très bien de quoi il s'agissait. Alors la Bible dit, Philippe lui a expliqué, il lui a expliqué que Ésaïe parlait de Jésus, que Jésus était venu, et que Jésus maintenant pouvait transformer sa vie. Et la Bible dit que le haut fonctionnaire éthiopien a cru à ce message concernant Jésus. Et il a demandé le baptême aussitôt. Alors il nous est dit que lorsque Philippe et ce haut fonctionnaire éthiopien sont ressortis de l'eau après son baptême, Philippe est parti et le haut fonctionnaire éthiopien ne l'a plus vu. Mais il est dit, tout joyeux, il a poursuivi son chemin. Et cette joie qui est propre au salut que Dieu donne, cette joie, elle est une caractéristique de la grâce de Dieu. C'est une joie véritable. Dans la Bible, dans le livre des Actes, nous voyons souvent cette joie se manifester. Lorsque Pierre et Silas, par exemple, sont en prison injustement pour avoir prêché l'Évangile, il nous est dit que dans la prison, ils ne se plaignaient pas alors qu'ils avaient été roués de coups, alors qu'ils avaient reçu le fouet, ils avaient extrêmement mal, ils étaient couverts de plaies, mais en plein milieu de la nuit, ils ont loué Dieu et ils ont chanté des cantiques. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient heureux. Heureux parce qu'ils avaient mal ? Non, personne n'est heureux parce qu'il a mal. Mais heureux parce que dans cette souffrance, dans cette épreuve, Dieu leur avait donné encore plus de joie pour combler cette souffrance. Il y a bien d'autres choses qui sont des manifestations de la grâce de Dieu. Peut-être que la grâce de Dieu, elle s'exprime très bien par ce texte, cette parole de Jésus dans Jean, chapitre 10, verset 10, où Jésus explique pourquoi il est venu, et il dit à ceux qui l'écoutent, ses disciples et les autres, « Je suis venu, dit-il, afin que les brebis, ce sont tous ceux qui croient en lui, aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'abondance, dans la Bible, c'est une des descriptions de la grâce de Dieu. Ce que Dieu nous propose, ce n'est pas une religion. Une religion n'est pas caractérisée par l'abondance. Une religion nous impose des actions, des rites. Elle nous impose un certain nombre de choses. Mais la grâce ne nous impose rien. La grâce nous offre tout ce que Dieu a pour nous. Et quand Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance », Jésus nous parle de sa grâce, de la grâce de Dieu. Jésus est venu pour que nous vivions une autre vie. Une vie non pas faite de lois, de légalisme, de rites, d'actions à faire absolument, de devoirs. Jésus est venu pour nous donner une autre vie, une vie dans laquelle, naturellement, nous aimerons faire le bien, naturellement, nous aimerons les autres, naturellement, nous chercherons à plaire à Dieu. Alors, la grâce, elle se manifeste par-dessus tout à la croix. À la croix, Jésus donne sa vie pour que tout cela soit possible. À la croix, c'est dans l'épître à Tite que Paul a écrit, « La grâce de Dieu a été manifestée, elle est une source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu a connu son point culminant, son apogée à la croix. Pour Jésus, et malheureusement pour trop d'hommes, pour trop d'êtres humains, la croix, c'est la tragédie. Cela a été une tragédie au moment où c'est arrivé. Mais c'est par cette tragédie, par cette mort de Jésus, cette mort atroce, cette mort terrible, la croix, c'est une souffrance terrible, mais c'est par cette croix que nous avons accès à la grâce de Dieu. La Bible dit que si nous regardons à la croix, si nous croyons à ce que Jésus a accompli sur la croix, nous avons la possibilité de vivre une autre vie. Et cette vie, c'est la vie abondante dont Jésus a parlé. C'est pourquoi Paul a écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, en parlant aux Éphésiens, il parle à tout le monde par ce moyen-là. Paul dit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, ensemble c'est-à-dire avec lui, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante, toujours ce mot, surabondante, de sa grâce, par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, nous n'avons aucun mérite. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La mort de Jésus sur la croix, c'est le seul vrai sacrifice qui puisse être accompli, différent des autres sacrifices que les Juifs offraient à Dieu chaque année pour le pardon de leurs péchés passés, mais qui ne les empêchait pas de recommencer à pécher à la moindre occasion. Mais ce sacrifice de Jésus sur la croix, c'est la manifestation suprême de la grâce de Dieu. Parce que Jésus a donné sa vie comme étant l'agneau de Dieu, comme disait Jean, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Eh bien, c'est cet agneau de Dieu qui nous permet, parce qu'il a été offert en sacrifice et qu'il est un sacrifice parfait, qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à la nouvelle vie, la vie dans la grâce. Alors, nous devons regarder à Jésus avec foi, en croyant sincèrement et complètement que par sa mort, Jésus pardonne toutes les fautes de ceux qui veulent bien regarder à lui et croire en lui. En fait, quand Jésus est mort, peu de temps avant de mourir, Jésus a dit « Tout est accompli ». On pourrait traduire par « mission accomplie », parce que Jésus est venu pour accomplir une mission. Le salut des hommes, leur libération, leur guérison, leur délivrance, leur changement de vie. Jésus a accompli la mission. Et c'est pourquoi, avant de mourir, moment tragique, Jésus a prononcé cette phrase « triomphante, triomphale, en disant « mission accomplie », Jésus dit « maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il suffit de croire, il suffit d'accepter. » Et là, en acceptant cela, nous entrons de plein pied dans la grâce de Dieu. Jésus a fait tout cela, comme dit l'évangile de Jean, pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous ayons la vie. C'est pourquoi nous croyons aujourd'hui que tout est possible à celui qui croit. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Nous pouvons nous approcher de Jésus avec une pleine foi. On ne peut recevoir la grâce de Dieu et vivre en elle que si l'on manifeste à l'égard de Dieu de ce qu'il a fait pour nous une foi totale, pleine et entière. C'est pourquoi rien de ce que nous faisons, aucun de nos efforts ne va pouvoir nous acquérir cette grâce. Ce n'est qu'en regardant à Dieu, en regardant à Jésus et en croyant ce que Jésus a fait que nous pourrons la recevoir et vivre d'elle. La grâce de Dieu, les conséquences de la grâce de Dieu, ils sont nombreux, elles sont nombreuses. On pourrait citer le pardon des péchés, la justification, le fait que nous sommes déclarés justes, quoi que nous ayons fait auparavant, et même, je dirais, même si nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible dit que Jésus, est, si nous avons péché, Jésus-Christ est juste et il peut nous pardonner, nous laver de tout péché. En quelque sorte, Dieu nous donne sa grâce, et par sa grâce, il nous donne le moyen de vivre une vie nouvelle. Et si quelquefois il nous arrive de commettre encore des fautes, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché si nous regardons toujours à lui. Alors, il y a le pardon, il y a la justification, il y a, comme dit Paul dans les deux Thessaloniciens, la consolation et l'espérance que nous avons de voir Jésus un jour et le bonheur. La grâce de Dieu, on ne peut pas bien sûr la résumer en quelques minutes comme je l'ai fait. La grâce de Dieu, c'est, je dirais, un mode de vie. La grâce de Dieu, on y rentre et on doit y rester. C'est une façon de concevoir la vie parce que c'est une façon de nous rendre compte que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, nous ne le sommes pas par nos mérites, mais nous le sommes parce qu'un jour Jésus s'est révélé à nous et si nous regardons à lui, il saura toujours nous garder dans sa grâce. Alors cette grâce, Dieu l'a manifestée dès le départ parce que Dieu est avant tout non pas un Dieu sévère, un Dieu dur, un Dieu intransigeant, inflexible, comme on l'a trop souvent représenté, mais Dieu est avant tout un Dieu de grâce. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu tout à l'heure en départ, au début de cette réflexion, Dieu manifeste sa grâce dès le début, dès la création, et il la manifeste tout au long de l'histoire de son peuple, qu'il s'agisse du peuple juif ou de tous les hommes qui peuvent aujourd'hui faire partie de son peuple. La grâce de Dieu est ce qui le décrit le plus et le mieux. Alors, sachons garder les yeux fixés sur lui, afin qu'il puisse toujours dans sa vie, dans notre vie, manifester sa grâce et nous aider à la découvrir toujours mieux, que son nom soit béni.